Celui qui hantait les ténèbres, par Howard Phillips Lovecraft. Les personnes prudentes, désireuses effectuer des recherches sur ce point, hésiteront à remettre en question la conviction commune selon laquelle Robert Blake fut tué par la foudre ou par le profond choc nerveux que lui aurait causé une décharge électrique. Il est vrai que la fenêtre devant laquelle il se trouvait était intacte, mais la nature a déjà montré qu'elle était capable de plus d'une manifestation bizarre. L'expression de son visage pouvait sans doute avoir quelque origine musculaire, sans rapport avec tout ce qu'il aurait pu voir. Quant aux éléments de son journal intime, ils sont clairement le fait d'une imagination fantastique, réveillée par diverses superstitions locales et diverses affaires anciennes qu'il avait redécouvertes. Pour ce qui est des conditions anormales qui régnaient dans l'église abandonnée de Federal Hill, il ne faudrait guère de temps à un observateur perspicace pour les attribuer à un certain charlatanisme, délibéré ou non, auquel, en partie du moins, Blake était secrètement lié. Car après tout, la victime n'était-elle pas un écrivain et un peintre qui se vouait entièrement au domaine du mythe, du rêve, de la terreur et de la superstition, et ne recherchait-elle pas avec avidité des scènes et des effets d'un genre bizarre, d'un genre spectral ? Un précédent séjour que Blake avait fait dans cette ville, une visite qu'il avait rendue à un étrange vieillard, tout aussi profondément intéressé que lui-même au maintien de la tradition occulte, de la tradition interdite, l'avait mis, avant de s'achever, en présence de la mort et des flammes. Et c'est un instinct morbide qui avait dû l'arracher une fois de plus à sa maison de Milwaukee pour le ramener ici. Peut-être avait-il entendu parler d'histoires anciennes, bien qu'il ait affirmé le contraire dans son journal. Et sa mort avait peut-être étouffé dans le germe quelques mystifications énormes dont il aurait attendu quelques répercussions littéraires. Toutefois, parmi ceux qui ont examiné et rapproché les uns des autres tous les témoignages, quelques-uns restent fidèles à des explications moins rationnelles et moins banales. Ces gens-là sont enclins à accepter la plus grande partie du journal de Blake et soulignent les faits qui leur paraissent significatifs, tels l'indéniable passé de la vieille église, l'existence confirmée de la secte de la sagesse étoilée, impopulaire et non orthodoxe, avant l'année 1877. La disparition bien attestée d'un journaliste curieux du nom d'Edwin M. Lillibridge en 1893, et par-dessus tout l'expression de peur monstrueuse qui se peignait sur le visage du jeune écrivain et qui le défigurait au moment de sa mort. C'est l'un des partisans de cette version qui, poussé à des extrémités fanatiques, jeta dans la baie la pierre aux angles curieux et la boîte de métal aux ornements étranges qu'il avait découvert dans la flèche de la vieille église, la flèche sombre, sans ouverture, et non la tour, où le journal intime de Blake disait que ces objets s'étaient trouvés à l'origine. Bien que fort critiqué en public comme en privé, cet homme, un médecin réputé qui s'intéressait à tout ce qu'il y a de curieux dans le folklore, prétendit qu'il avait débarrassé la surface de la terre d'un objet trop dangereux pour qu'on l'y laissât. Entre ces deux écoles d'opinion, le lecteur tranchera. Les journaux ont fourni les détails et les ont présentés sous un angle sceptique, laissant à d'autres le soin de brosser le tableau tel que Robert Blake le vit ou pensa le voir, ou tel qu'il prétendit l'avoir vu. Aujourd'hui, étudiant de près ce journal, sans passion, tout à loisir, nous voudrions dire brièvement ce que fut cette suite d'événements selon le point de vue de leur acteur principal. Le jeune Blake était revenu à Providence au cours de l'hiver 1934-1935, et s'était installé au dernier étage d'un immeuble vénérable, au fond d'une cour envahie par les herbes qui donnait sur College Street, sur la crête d'une grande colline orientée vers l'est, près du campus de l'université Brough et derrière les bâtiments en marbre de la bibliothèque John Hay. C'était un lieu agréable et plein de charme, au cœur d'une petite oasis de jardin qui avait ce caractère que l'on trouvait jadis dans les villages. D'énormes chats amicaux se chauffaient au soleil sur le toit d'un hangar qui se dressait là fort à propos. La maison carrée dans le style de l'époque des rois Georges avait un lanterneau, une porte classique aux nervures gravées en éventail, des fenêtres à petits carreaux et toutes les autres caractéristiques chères à l'artisanat du début du 19e siècle. À l'intérieur, on découvrait des portes à six panneaux, un parquet aux lattes larges, un escalier courbe de style colonial, des linteaux de cheminée s'inspirant de ceux d'Adam, plus toute une suite de pièces qui donnaient sur l'arrière, trois marches au-dessous du niveau général. Le bureau de Blake, une grande pièce exposée au sud-ouest, s'ouvrait d'un côté sur le jardin de devant, tandis qu'à l'ouest, les fenêtres, c'était devant l'une d'elles qu'il avait installé sa table de travail, donnait sur le front de la colline, offrant une vue splendide sur l'étendue des toits de la ville basse et les couchers de soleil mystérieux qui s'embrasaient derrière. On apercevait tout à fait à l'horizon les vallonnements pourpres de la pleine campagne. C'est sur ce fond, à quelques 5 miles de distance, que s'élevait la butte spectrale de Federal Hill, toute hérissée de flèches et de toits blottis les uns contre les autres, dont les silhouettes lointaines faisaient des signes mystérieux et prenaient des formes fantastiques quand les fumées de la ville montaient en tourbillon pour les prendre dans leurs raies. Blake avait l'impression étrange de jeter les yeux sur un monde inconnu, éthéré, qui s'évanouirait peut-être comme un rêve s'il tentait jamais d'aller le chercher et d'y pénétrer. Ayant fait venir de chez lui la plus grande partie de ses livres, Blake acheta quelques meubles anciens qui s'accordaient avec le style de sa maison et s'y installa pour écrire et pour peindre. Vivant seul et prenant soin lui-même d'un entretien qui était simple, son studio se trouvait dans une pièce de grenier orientée au nord, où les vitres du lanterneau lui fournissaient une lumière admirable. Au cours de ce premier hiver, il composa 5 de ses nouvelles les plus célèbres, Le fouisseur sous la terre, L'escalier dans la crypte, Chagai, dans le Val de Pnat, L'amateur venu des étoiles. Et il peignit 7 toiles, des études de monstres inhumains, sans nom, des paysages différents de tout ce que nous connaissons, extraterrestres. Au coucher du soleil, il s'asseyait souvent à son bureau et laissait flotter son regard tout en rêvant sur le paysage qui s'étendait vers l'ouest. Les tours sombres du Memorial Hall, là à ses pieds, le beffroi du palais de justice, dont le style évoquait les règnes des rois Georges, les clochetons de la ville basse, puis au loin la butte ruisselante de lumière et couronnée de clochers, dont les rues inconnues et les pignons labyrinthiques excitaient tant son imagination. Des rares relations qu'il avait pu se faire dans le voisinage, il avait appris que ce flanc de coteau lointain était un grand quartier italien, mais que la plupart des constructions y dataient de l'époque où il était habité par les Yankees et les Irlandais. De temps à autre, il tournait ses jumelles vers ce monde spectral, hors de portée, au-delà des fumées qui montaient en spirale, s'arrêtant sur un toit, une cheminée ou une flèche, il spéculait sur les bizarres et curieux mystères qu'il pouvait abriter. En dépit de l'aide apportée par l'optique, Federal Hill apparaissait comme un lieu différent, à demi fabuleux de ce qui le rapprochait des surprenantes créatures irréelles, intangibles, des contes et des tableaux de Blake. Cette impression persistait longtemps après que la colline se fût estompée dans le crépuscule violet, étoilé de lampes, et que les projecteurs du palais de justice et le phare rouge du trust industriel se furent allumés, donnant à la nuit un caractère grotesque. De tous les monuments qui se dressaient à distance sur Federal Hill, c'était une église, énorme et noire, qui intriguait le plus Blake. Elle se détachait avec une netteté toute particulière à certaines heures de la journée et au coucher du soleil. La grande tour et sa flèche pointue se découpaient sombres et menaçantes contre le ciel embrasé. Cette église paraissait avoir été bâtie sur un terre-plein, spécialement aménagé. Sa façade sévère et le côté nord que l'on apercevait de biais, le toit incliné et le haut des grandes fenêtres gothiques dominaient fièrement, en effet, l'entremêlement de faîtage et de cheminées qui l'entouraient. D'un aspect nettement sévère, voire austère, elle paraissait avoir été édifiée avec des pierres que, depuis des siècles ou même davantage, les fumées et les intempéries avaient dégradées et salies. Le style, autant que les jumelles permettaient d'en juger, était d'une forme encore tout à fait expérimentale de ce gothique dont la Renaissance avait précédé la manière noble mise à la mode par Upjohn et survécu aux lignes et aux proportions adoptées sur les règnes des rois Georges. Elle devait dater des alentours de 1810 ou de 1815. Les mois passaient et Blake observait cet édifice, lointain et menaçant, avec un intérêt qui ne cessait curieusement de croître. Comme les grandes fenêtres n'en étaient jamais éclairées, il avait compris qu'il devait être inoccupé. Plus il l'examinait et plus son imagination travaillait, si bien qu'il finit par rêver de choses curieuses à son propos. Il crut que planait une si vague et si étrange aura de désolation autour de ce lieu que les pigeons et les hirondelles eux-mêmes fuyaient les corniches enfumées. Auprès des autres tours et des autres beffrois, ses jumelles lui révélaient la présence de grands rassemblements d'oiseaux. Mais là, jamais ils ne se posaient. C'est du moins ce dont il se persuada et ce qu'il nota dans son journal intime. Il signala le monument à plusieurs de ses amis, mais nul d'entre eux ne s'était jamais rendu sur Federal Hill, ni avait la moindre idée de ce qu'était cette église ou de ce qu'elle avait pu être. Au printemps, une profonde agitation s'empara de Blake. Il s'était mis à écrire le roman auquel il songeait depuis longtemps. Le thème principal en était la survivance supposée de la sorcellerie dans l'état du Maine, mais il était étrangement incapable de le faire avancer. De plus en plus souvent, il allait prendre place devant la fenêtre qui donnait vers l'ouest, pour contempler la colline lointaine et sa noire et menaçante flèche que fuyaient les oiseaux. Quand les feuilles délicates se déplièrent sur les arbres des jardins, le monde s'emplit d'une beauté nouvelle, mais l'agitation de Blake ne fit que croître. C'est alors que lui vint l'idée de traverser la ville et de grimper cette pente fabuleuse pour atteindre le monde saint de fumée qui le faisait rêver. C'est fin avril, à l'époque qui précède tout juste la nuit de Valpurgis, nuit vouée à l'ombre depuis toujours, que Blake fit son premier voyage dans l'inconnu. Suivant avec difficulté les rues sans fin de la ville basse et les mornes places laissées à l'abandon qui leur succédaient, il atteignit enfin l'avenue pentue, faite de marches usées, qui avait servi tout un siècle, le porche dorique affaissé et de coupoles aux vitraux sales. Il sentait qu'elle devait le mener par-delà les brumes au monde inaccessible, qu'il devinait depuis longtemps. Il y avait dans cette rue de vieux panneaux bleus et blancs qui ne lui disaient rien. Au bout d'un moment, pourtant, il remarqua les visages singulièrement basanés de nombreux promeneurs, tout comme les enseignes en caractère étranger des curieuses boutiques qui s'ouvraient au pied d'immeubles bruns marqués par des décennies d'intempéries. Nulle part, il ne retrouvait trace de ce qu'il avait vu de loin. Une fois, il se persuada à demi que le Federal Hill qu'il avait aperçu à distance n'était qu'un univers de rêve et qu'aucun être humain n'enfoulerait jamais le sol vivant. De temps à autre, il voyait surgir la façade délabrée d'une église, un clocher en ruine, mais jamais l'édifice noirci qu'il recherchait. Il se renseigna auprès d'un boutiquier au sujet d'une grande église de pierre, mais l'homme sourit et hocha négativement la tête, bien qu'il s'exprimât sans difficulté en anglais. Plus Blake grimpait, et plus la région qu'il parcourait gagnait en étrangeté, avec des labyrinthes déroutants de ruelles sombres et brunes qui menaient toutes vers le sud. Il franchit deux ou trois grandes avenues et crut, une fois, avoir entrevu une tour familière. Il interrogea à nouveau un commerçant au sujet de la massive église de pierre, mais cette fois il aurait presque pu jurer que l'allégation d'ignorance qu'il se voyait opposer était feinte. Une expression de crainte avait envahi le visage bistré de l'homme malgré une tentative de la dissimuler, et Blake le vit faire un curieux signe de la main droite. Puis soudain, à sa gauche, une flèche se découpa sur le ciel nuageux par-dessus les rangées des toits bruns bordant les ruelles enchevêtrées orientées vers le sud. Blake comprit aussitôt de quoi il s'agissait et s'élança vers elle en suivant les pentes sordides et non pavées issues de l'avenue. Par deux fois, il perdit son chemin, mais il n'osa le demander ni aux patriarches ni aux ménagères assis sur le bas de leurs portes, ni même aux enfants qui criaient et jouaient dans la boue de ces sombres venelles. Il vit enfin la tour se découper clairement vers le sud-ouest, et une énorme masse de pierres sombres s'élevait au bout d'une ruelle. Un instant plus tard, il se trouvait dans un square ouvert à tous les vents, curieusement pavé, qui s'achevait du côté opposé par un glacis élevé. Ceci marquait la fin de sa quête. Sur le vaste plateau, envahi par les arbres, ceinturé d'une grille que supportait le glacis, petit univers qu'on avait élevé à 2 mètres au-dessus des rues avoisinantes, Blake voyait en effet ériger une masse sévère, titanesque, dont l'identité, en dépit de la nouveauté de sa perspective, était pour lui indiscutable. L'église abandonnée était dans un sérieux état de décrépitude. Quelques-uns de ses grands piliers étaient tombés, et plusieurs de ses délicats épis de fête gisaient à demi dissimulés par des herbes jaunies. Les fenêtres gothiques, recouvertes de suie, n'étaient pas brisées pour la plupart, bien que de nombreux meneaux eussent disparu. Blake se demanda comment les vitraux aux couleurs indistinctes avaient pu survivre, étant donné les habitudes des petits garçons du monde entier. Les robustes portes étaient intactes et solidement verrouillées. Au sommet du glacis, une grille de fer rouillée fermait complètement le terrain et sa porte. Au sommet d'un escalier, qui dominait la grande place, était visiblement cadenassé. Le sentier qui menait de cette porte à l'édifice était complètement envahi par les herbes. Les lieux semblaient funèbrement livrés à la désolation et à la décomposition. Et devant ces corniches sans oiseaux, ces murs noircis, sans lierre, Blake éprouva une impression vaguement sinistre qu'il n'aurait su définir. Il y avait très peu de gens sur cette place, mais Blake rencontra un policier sur le côté nord et alla lui poser des questions sur l'église. L'homme était un grand et solide Irlandais, et Blake trouva curieux de le voir se borner à faire le signe de la croix, puis à marmonner que les gens ne parlaient jamais de ce bâtiment. Quand Blake le pressa, il déclara sur un ton précipité que les prêtres italiens mettait tout le monde en garde contre cet édifice, affirmant qu'une malfaisance monstrueuse avait régné là autrefois et qu'il y avait laissé sa marque. Il avait d'ailleurs entendu son propre père grommeler sourdement sur ce point quand il évoquait les divers bruits et rumeurs qui avaient couru dans sa propre enfance. Une secte mauvaise s'était réunie là, jadis. une secte interdite qui demandait à des créatures terribles de sortir d'un gouffre inconnu de la nuit. Il avait fallu un bon prêtre pour exorciser ce qui était venu, même s'il s'était trouvé des gens pour dire qu'une simple lumière aurait suffi. Si le père O'Malley avait été encore en vie, il aurait pu en dire long. Mais à présent, il n'y avait plus qu'à laisser tout cela en paix. Ça ne faisait plus de mal à personne désormais, et pour ceux qui étaient des propriétaires, ils étaient morts ou partis. Ils s'étaient enfuis comme des rats, après que de nouvelles menaçantes se furent répandues en 1877, quand les gens s'étaient interrogés sur la façon dont diverses personnes du voisinage avaient disparu. Un jour, la ville finirait par intervenir et s'en saisirait, vu l'absence d'héritier. Mais si on s'avisait d'y toucher, il n'en sortirait rien de bon. Il valait mieux la laisser là, telle qu'elle, jusqu'à ce qu'elle s'écroulât, plutôt que d'éveiller les choses qu'il valait mieux laisser pour toujours dans le sombre abîme qui les abritait. Après le départ du policier, Blake demeura sur place à contempler le lugubre édifice surmonté d'un clocher. Ce qui éveilla son intérêt, c'était de découvrir que cette structure paraissait aussi sinistre aux autres qu'à lui-même, et il se demandait quelle parcelle de vérité pouvait bien cacher les racontars que l'homme en uniforme lui avait rapportés. Il ne s'agissait sans doute que de légendes nées de l'aspect menaçant du lieu, mais même s'il en était ainsi, on aurait pu croire à une curieuse matérialisation des histoires qu'il inventait. Le soleil de l'après-midi sortit de derrière les nuages qui se dispersaient, mais parut incapable d'éclairer les murs souillés de suie du vieil édifice qui dominait tout, du haut de son grand plateau. Il était singulier que derrière la grille, le printemps n'eût pas touché de vert les plantes jaunies et desséchées de l'enceinte. Blake se rendit compte qu'il se rapprochait de cette zone surélevée. Il examina le glacis et la clôture rouillée pour chercher par où il pourrait y pénétrer. Ce temple noirci avait une force d'attraction telle qu'on ne pouvait y résister. La grille ne comportait aucune ouverture près de l'escalier, mais sur le côté nord, il manquait quelques barreaux. Blake pourrait monter l'escalier puis suivre à l'extérieur de la grille l'étroit couronnement du glacis jusqu'au trou de la clôture. Si les gens redoutaient l'endroit aussi farouchement qu'on le prétendait, nul ne s'interposerait. Il fut sur la levée de terre et presque à l'intérieur de la grille avant d'avoir été surpris. Alors, baissant les yeux, il aperçut quelques personnes sur la place qui s'éloignaient à reculons et qui faisaient de la main droite le même signe qu'il avait vu faire aux commerçants de l'avenue. Plusieurs fenêtres se fermèrent avec bruit et une grosse femme traversa la rue en courant pour faire rentrer plusieurs enfants dans une maison délabrée qui avait perdu toute peinture. Il était très facile de franchir la trouée de la clôture. Aussi Blake se retrouva-t-il vite, en train de se frayer un chemin parmi la végétation pourrissante et désordonnée de l'enceinte désertée. Ici et là, les fragments d'une pierre tombale lui révélaient qu'on avait jadis procédé ici à des enterrements. Cela, pourtant, il s'en rendait compte, avait dû se passer très longtemps auparavant. La masse même de l'église l'oppressait à présent, qu'il en était tout près. Mais il se domina et continua d'en approcher pour tenter d'ouvrir l'un ou l'autre des trois grands portails de la façade. Comme ils étaient tous solidement fermés, il entreprit le tour complet de cette construction cyclopéenne, en quête de quelque ouverture moins importante et plus accessible. Il n'était toujours pas certain de vouloir pénétrer dans ce royaume de la désertion et de l'ombre, et pourtant l'attirance qu'il éprouvait à l'égard de tant d'étrangetés le poussait à poursuivre comme un automate. Un soupirail qui béait à l'arrière, sans protection, lui fournit l'accès dont il avait besoin. Fouillant l'intérieur du regard, Blake découvrit un gouffre souterrain plein de toiles d'araignées et de poussière, faiblement éclairé par les rayons filtrés du soleil de l'ouest. Ses yeux décelèrent des débris de vieux tonneaux, des caisses et des meubles hétéroclites, malgré la couche de poussière omniprésente qui effaçait les angles. Les restes rouillés d'un fourneau de chaufferie montraient que le bâtiment avait servi et qu'il avait été entretenu jusqu'au milieu du 19e siècle. Sous le coup d'une impulsion presque inconsciente, Blake se glissa par le soupirail et se laissa tomber sur le sol cimenté, poussiéreux et tout couvert de débris. La cave voûtée était vaste, sans cloison. Dans un angle, loin sur la droite, plongé dans une ombre épaisse, il devina une porte cintrée qui, de toute évidence, menait vers le haut. Il éprouva un bizarre sentiment d'oppression à la pensée de se trouver réellement à l'intérieur du grand édifice spectral, mais il le domina et se mit à examiner prudemment ce qui l'entourait. Il découvrit un tonneau encore intact sous la poussière et le roula jusqu'à la fenêtre ouverte pour faciliter sa sortie. Puis, s'armant de tout son courage, il traversa le vaste espace festonné de toiles d'araignée et se dirigea vers la porte. À moitié étouffé par la poussière omniprésente, couvert de fibres arachnéennes et fantomatiques, il atteignit l'escalier usé qui s'élevait dans l'obscurité et entreprit de le gravir. Comme il n'avait pas de lumière, il avança à l'aveuglette, ses dents des mains. Après un coup de brusque, il sentit une porte close devant lui, Quelques tâtonnements lui révélèrent la présence de l'ancien loquet. La porte s'étant ouverte vers lui, il aperçut au-delà un couloir faiblement éclairé, revêtu de boiseries vermoulues. Une fois au rez-de-chaussée, Blake en entreprit l'exploration rapide. Toutes les portes intérieures étaient ouvertes, ainsi qu'il put passer librement d'une partie du bâtiment à l'autre. La nef colossale avait quelque chose de quasiment fantastique, avec ses monceaux, ses montagnes de poussière sur les bancs. L'autel, la chaire en forme de sablier, le tamis de l'orgue, et ses fils d'araignée titanesques tendus entre les ogives du chœur qui enlaçaient les colonnes gothiques en faisceau. Une hideuse lumière plombée se jouait sur toute cette désolation étouffée, alors que les rayons du soleil faiblissant de l'après-midi se glissaient par les vitraux étranges, à demi obscurcis, des grandes fenêtres de l'abside. Les peintures de ces vitraux étaient si assombries par la suie que Blake ne distinguait qu'avec peine ce qu'elles représentaient. Le peu qu'il pouvait en comprendre, pourtant, ne les rendait pas plus sympathiques. Le graphisme en était une grande partie conventionnelle, mais sa connaissance du symbolisme hermétique lui permettait de lire beaucoup de choses dans ces motifs anciens. Les rares saints qui étaient représentés avaient des expressions si ennuyées que leur attitude était vraiment critiquable, tandis que l'une des fenêtres comportait simplement un espace sombre à l'intérieur duquel se déroulaient ici et là des spirales d'une curieuse luminosité. Détournant son regard des fenêtres, Blake remarqua au-dessus de l'autel une croix couverte d'arentelles qui, loin d'avoir une forme courante, ressemblait à l'ancre primitive ou à la croix ansée, la Crux Ansata de la ténébreuse Égypte. Dans une sacristie qui s'ouvrait à côté de l'abside, derrière l'autel, Blake découvrit un bureau rongé, puis des étagères qui montaient jusqu'au plafond, chargées de livres moisis qui se désintégraient. Là, pour la première fois, il éprouva un véritable choc d'horreur objective, car les titres de ces livres étaient pour lui révélateurs. Il s'agissait de noirs ouvrages interdits, dont la plupart des gens normaux n'avaient jamais entendu parler ou n'avaient ouï à leur propos que des murmures furtifs et peureux. Ces volumes étaient des dépositaires bannis et redoutés des secrets équivoques et de formules immémoriales qui avaient filtré tout au long des temps depuis l'époque de la jeunesse de l'homme, et même depuis l'ère obscure, fabuleuse, d'avant la venue de l'homme. Il en avait lui-même lu un grand nombre, une version latine du Necronomicon Aboré, le sinistre Liber Ivonis, l'infâme culte des ghouls du comte d'Erlet, les Unas Preschlichen Kulten de von Jungst, le diabolique des Vermis Mysteris. Mais il y en avait d'autres qu'il ne connaissait que de réputation, ou qu'il n'avait jamais lui-même entendu mentionner. Les manuscrits pnacotiques, le livre de Diane, et un volume qui s'effritait, au caractère totalement inidentifiable, mais comportant certains symboles et diagrammes susceptibles de donner des frissons à tout homme versé dans l'occultisme qui les reconnaîtrait. Il était clair que les légendes répandues dans le voisinage n'avaient pas menti. Ce lieu avait été autrefois le refuge d'une malfaisance plus ancienne que l'humanité et plus vaste que l'univers que nous connaissons. Dans le bureau vermoulu, Blake trouva un petit registre relié en cuir dans lequel des notes étaient consignées selon un bizarre système cryptographique. L'écriture de ce manuscrit était faite de ces symboles traditionnels et fort répandus utilisés aujourd'hui en astronomie et qui l'étaient autrefois en alchimie, en astrologie et en divers autres arts plus ambigus. Des représentations graphiques du soleil et de la lune, des planètes, des aspects et des signes du zodiaque, groupés ici tout au long de pages entières de texte avec des divisions et des coupures par paragraphes qui suggéraient l'existence d'une correspondance entre ces symboles et les lettres de l'alphabet. Dans l'espoir de pouvoir résoudre plus tard ce cryptogramme, Blake glissa le volume dans la poche de son manteau. Nombre de grands tomes qu'il apercevait sur les étagères le passionnaient de manière indicible et il se sentit tenté de venir les rechercher plus tard. Il se demanda comment ils avaient pu demeurer si longtemps intouchés. Était-il le premier à dominer cette crainte oppressante qui avait protégé des visiteurs cet endroit déserté pendant près de 60 années? À présent qu'il avait minutieusement exploré le rez-de-chaussée, Blake se fraya une fois encore péniblement un passage dans la poussière de la nef spectrale afin de gagner le vestibule de l'entrée où il avait vu une porte et un escalier menant sans doute à la tour noircie et à sa flèche. Structure qui, de loin, lui avait été depuis si longtemps familière. L'ascension fut une expérience éprouvante pour ses poumons, car la poussière était épaisse et les araignées s'étaient surpassées dans cet espace restreint. L'escalier en spirale était fait de marches de bois hautes et étroites. De temps à autre, Blake passait devant une fenêtre obscurcie qui lui offrait un aperçu vertigineux sur la ville. Bien qu'il n'ait pas vu de corde en bas, il s'attendait à trouver une cloche ou un carillon dans la tour dont ses jumelles avaient si souvent examiné les étroites fenêtres à lancettes et les abat-sons. et allait pourtant être déçu. Quand il atteignit le haut de l'escalier, en effet, il découvrit que la chambre de la tour n'abritait pas le moindre carillon et qu'il était clair qu'elle avait été destinée à des buts bien différents. La pièce d'environ 15 pieds carrés était faiblement éclairée par 4 fenêtres à lancette, une sur chaque côté, garnées de vitres sous le calfeutrement d'abat-son très endommagé. Ces derniers avaient en outre été pourvus d'écrans serrés et opaques, qui à présent étaient pour la plupart tombés en morceaux. Au centre du plancher couvert de poussière s'élevait un pilier de pierre aux angles curieux. Il mesurait environ 4 pieds de haut et avait à peu près partout 2 pieds de diamètre. Toutes les faces étaient couvertes de bizarres hiéroglyphes gravés de façon grossière qui n'évoquaient rien de connu. Une boîte de métal étrangement asymétrique reposait sur ce pilier. Le couvercle à charnière était ouvert et l'intérieur recelait, sous une poussière vieille de bien des décennies, ce qui ressemblait à un œuf ou à un objet sphérique irrégulier, mesurant en tout et pour tout quelques 4 pouces. Autour de ce pilier, 7 chaises gothiques à haut dossier, encore intactes en grande partie, étaient rangées en un cercle approximatif. Derrière, le long des murs aux sombres boiseries, étaient alignées 7 statues colossales de plâtre noir qui s'effritaient. Ces statues évoquaient aussitôt les énigmatiques mégalithes sculptés de la mystérieuse île de Pâques. Dans un coin de la salle, couverte de fils d'araignée, une échelle scellée dans le mur menait jusqu'à la trappe fermée de la flèche, dépourvue d'ouverture, qui la surplombait. Lorsque Blake fut accoutumé à la pénombre, il remarqua les bizarres bas-reliefs qui ornaient l'insolite boîte de métal jaunâtre. En s'approchant, il tenta d'enlever la poussière avec ses mains et son mouchoir, et il se rendit compte que les idéogrammes étaient d'une nature monstrueuse, qui lui était tout à fait inconnue. Ils figuraient des entités que, si elles avaient l'air d'être vivantes, ne rappelaient aucune forme de vie ayant jamais évolué, à notre connaissance, sur cette planète. Ce qui lui avait paru être une sphère de 20 cm se révéla être un polyèdre, presque noir, strié de rouge, comportant un grand nombre de facettes planes. C'était soit un cristal très remarquable, soit un objet artificiel façonné dans un minéral dont le polissage avait été poussé à un très haut degré. L'objet ne touchait pas le fond de la boîte, mais demeurait suspendu grâce à un ruban de métal tendu au-dessus du centre à l'aide de 7 supports au dessin très singulier qui partaient à l'horizontale des angles de la paroi intérieure près du sommet de la boîte. Cette pierre, une fois nettoyée, exerça sur Blake un attrait presque inquiétant. Il avait peine à s'en distraire le regard, et comme il en fixait les faces étincelantes, il faillit s'imaginer qu'elle était transparente et recelait des univers fabuleux qui n'étaient encore qu'à demi formés. Dans son esprit, il voyait défiler des images d'orbes inconnus, avec de grandes tours de pierre, d'autres orbes avec des montagnes gigantesques, mais nulle trace de vie, et des espaces encore plus éloignés où seul un frémissement en de vagues ténèbres révélait la présence de quelque conscience et quelque volonté. Quand il détacha les yeux, ce fut pour remarquer la présence d'un monticule de poussière assez singulier dans le coin le plus lointain, près de l'échelle, qui menait à la flèche. Il n'aurait su dire pourquoi son attention avait été attirée, mais son inconscient se trouvait alerté par la forme même de ce tas. Se frayant un chemin en écartant les toiles d'araignée sur son passage, il commença à discerner qu'il se trouvait en présence de quelque chose d'inexorable. Sa main et son mouchoir lui apprirent bientôt ce qu'il en était, et Blake sursauta, sous le coup d'émotions aussi diverses que d'inconcertantes. Il s'agissait d'un squelette humain, qui devait être là depuis très longtemps. Les vêtements étaient en lambeaux, mais quelques boutons et quelques fragments de tissu indiquaient qu'ils avaient appartenu à un costume d'homme de couleur grise. Il y avait aussi d'autres petits indices, des chaussures, des boucles de métal, d'énormes boutons destinés à des manchettes rondes, une épingle de cravate d'un modèle ancien, une carte de reporter avec l'entête du vieux Providence Telegram, un portefeuille de cuir qui se désagrégeait. Blake examina ce dernier avec soin, découvrant à l'intérieur diverses factures dont l'échéance était fort ancienne, un calendrier publicitaire en celluloïde pour l'année 1893, quelques cartes de visite au nom de Edwin M. Lillibridge et un papier couvert de notes de crayon. Ce papier contenait des choses bien faites pour exciter sa curiosité, aussi Blake le lut-il avec attention à la faible lumière de la fenêtre ouest. Le texte, décousu, comprenait des phrases ainsi rédigées. Professeur Enoch Bowen, de retour d'Égypte, mai 1844, achète la vieille église du libre arbitre en juillet. Ses travaux d'archéologie et ses recherches dans les sciences occultes sont fort connus. Le docteur Brown de la 4e église baptiste fait appel à la vigilance envers la sagesse étincelante au cours du sermon du 29 décembre 1844. Congrégation, 97 à la fin de 45. 1846, trois disparitions. Première mention du trapézoèdre brillant. 7 disparitions en 1848. Les histoires de sacrifices commencent à se répandre. L'enquête de 1853 n'aboutit à rien, des rumeurs au sujet de bruit. Le frère O'Malley évoque un type d'adoration du diable à l'aide d'une boîte découverte parmi les grandes ruines égyptiennes. Il prétend qu'on invoque quelque chose qui ne peut subsister à la lumière. Quelque chose qui fuit une petite lumière et qui se trouve banni par une forte lumière. Quand cela se produit, il faut la rappeler. Tient sans doute ceci d'une confession recueillie sur le lit de mort de Francis X. Finney, qui était membre de la secte de la sagesse étincelante depuis 1849. Ces gens-là prétendent que le trapézoèdre brillant leur fait connaître le ciel et d'autres univers, puis que l'être qui hante les ténèbres leur révèle des secrets par des moyens qui n'appartiennent qu'à lui. Histoire d'Orin B. Eddy, 1857. Ils l'invoquent en fixant le cristal et se servent d'un langage mystérieux qui leur est propre. 200 personnes ou davantage dans la congrégation en 1863, sans compter les hommes au front. Les jeunes Irlandais manifestent jusque dans l'église en 1869 après la disparition de Patrick Regan. Article voilé dans le journal du 14 mars 72, mais les gens ne parlent pas. 6 disparitions en 1876. Un comité secret rend visite au maire Doyle. Promesse d'engagement d'une action en février 1877. L'église est fermée en avril. Une bande, des jeunes de Federal Hill, menace le docteur et les marguilliers en mai. 181 personnes quittent la ville avant la fin 77. Ne pas faire mention de nom. Des histoires de fantômes commencent à se répandre aux environs de 1880. Tente de vérifier ce qu'a de vrai le rapport selon lequel aucun être humain n'a pénétré dans l'église depuis 1877. Demandez à Lanigan la photographie du lieu faite en 1851. Remettant le papier dans le portefeuille et glissant ce dernier dans sa veste, Blake se tourna pour regarder le squelette qui gisait dans la poussière. Les implications de ses notes étaient claires. Il ne pouvait faire aucun doute que cet homme avait pénétré dans l'édifice désert 42 ans auparavant, parce qu'il était en quête d'une exclusivité journalistique à caractère sensationnel que nul autre n'avait eu le courage de venir chercher. Peut-être n'avait-il mis personne au courant de ses projets, qui sait. Pourtant, il ne s'était jamais représenté à son journal. La peur qui l'avait dominé avec beaucoup de cran l'avait-elle finalement envahi au point de provoquer chez lui une subite défaillance cardiaque? Blake se pencha sur les ossements blanchis et remarqua l'état particulier dans lequel il se trouvait. Certains étaient très dispersés et d'autres paraissaient dissous extrémités, ce qui ne manquait pas d'être surprenant. D'autres encore étaient étrangement jaunis et cette teinte suggérait peut-être un début de carbonisation. Divers fragments de vêtements paraissaient d'ailleurs avoir été roussis. Le crâne, enfin, était dans un état étonnant. Jauni, lui aussi, il présentait un trou de brûlure au sommet, comme si un acide puissant avait attaqué l'os même. Blake n'arrivait pas à imaginer ce qui avait pu arriver à ce squelette 40 ans auparavant, quand cet endroit voué au silence était aussi devenu son tombeau. Sans s'être rendu compte, il avait à nouveau tourné les yeux vers la pierre et s'était abandonné à la mystérieuse domination qui faisait défiler un nébuleux spectacle dans son esprit. Il découvrait des processions de silhouettes vêtues de robes et encapuchonnées dont les contours n'étaient pourtant pas humains. Et il avait sous les yeux des étendues infinies de désert où s'alignaient des monolithes sculptés qui montaient jusqu'au ciel. Il devina des tours et des murailles dans les profondes ténébreuses de la mer, puis des tourbillons dans l'espace, où des traînées de brouillard noir flottaient sur un fond de froide brume pourpre au faible chatoiement. Et par-delà, il voyait béer un gouffre d'obscurité infinie, où des formes solides et demi-solides n'étaient reconnaissables qu'à leur frémissement dans le vent, et où de nuages motifs de force paraissaient ordonner le chaos et maîtriser tous les paradoxes et tous les arcanes de l'univers que nous connaissons. Puis tout à coup le charme fut rompu, car un accès de peur, une peur panique indéfinissable le submergea. Blake suffoqua et se détourna de la pierre, conscient de la proximité d'une présence inconnue et informe qui le surveillait avec une atroce intensité. Il se sentit entraîné par quelque chose qui ne se trouvait pas dans la pierre, mais qu'il avait examiné à travers elle. Une chose qui allait désormais le suivre sans cesse avec une connaissance de lui qui ne devrait rien à une perception visuelle. Il était manifeste que ce lieu l'affectait nerveusement, réaction bien naturelle somme toute, étant donné la macabre découverte qu'il y avait faite. La lumière faiblissait, et comme il n'avait rien à porter pour s'éclairer, il savait qu'il lui faudrait partir sous peu. C'est alors que dans le crépuscule qui s'annonçait, il crut percevoir une faible trace de luminosité dans la pierre aux surprenantes arêtes. Il avait tenté d'en détacher son regard, bien qu'une source obscure contrainte ne cessât de l'y ramener. Existait-il dans cet objet une subtile phosphorescence due à la radioactivité? Qu'avait-il lu dans les notes du mort au sujet d'un trapézoèdre brillant? Et qu'était donc en fin de compte son repère abandonné plein de malfaisances cosmiques? Que s'était-il passé ici? Qu'est-ce qui pouvait bien se tapir encore dans ces ombres fuies des oiseaux? Il semblait à présent qu'une fugitive et vague puanteur s'exhala quelque part, tout près, bien que la source n'en fût pas apparente. Blake saisit le couvercle de la boîte, si longtemps ouverte, et le rabattit d'un coup sec. Il pivota aisément sur ses charnières, fabriquées dans un ailleurs inconnu, et se referma tout à fait sur la pierre qui, indéniablement, luisait. Blake eut l'impression qu'en réponse au claquement sec de la fermeture, un son étouffé accompagnant un mouvement lui parvint de l'éternelle obscurité qui régnait là-haut, dans la flèche, de l'autre côté de la trappe. Des rats, sans doute. Seule créature vivante à révéler leur présence dans cet édifice maudit depuis qu'il y avait pénétré. Et pourtant ce déplacement dans la flèche le terrorisa à tel point qu'il se jeta comme un fou dans l'escalier en spirale, traversa la nef, digne refuge des goules, se glissa dans le sous-sol voûté et se retrouva à l'air libre tandis que l'obscurité grandissante envahissait la place désertée. Il descendit ensuite les allées et venues populeuses de Federal Hill qui dominaient la crainte, puis se dirigea vers les rues centrales où régnait la raison, suivant les trottoirs de briques du quartier du collège, qui évoquaient pour lui ceux de son quartier. Pendant les jours qui suivirent, Blake ne parla à personne de son expédition. Il se plongea en revanche dans certains livres, se rendit en ville pour consulter les archives de divers journaux sur de longues périodes, puis travailla fiévreusement à déchiffrer le cryptogramme du volume relié qui provenait de la sacristie livrée aux toiles d'araignée. Le chiffre, il s'en rendit compte aussitôt, n'avait rien de simple. Après beaucoup d'essais infructueux, il eut la certitude que ce langage ne pouvait être ni de l'anglais, ni du latin, ni même du grec, du français, de l'espagnol, de l'italien ou de l'allemand. Il était évident qu'il allait lui falloir faire appel aux sources les plus profondes de son étrange érudition. Chaque soir, la vieille tentation de regarder vers l'ouest le reprenait, et il voyait la flèche noire se dresser, comme jadis, au milieu de la forêt des toits d'un univers lointain à demi fabuleux. À présent, pourtant, il y percevait, et c'était nouveau pour lui, une connotation de terreur. Il savait l'héritage de malfaisantes traditions qu'il recelait et le fait de savoir entraînait son esprit vers de nouveaux, vers d'inexplicables fantasmes. Avec le printemps, les oiseaux revenaient, et comme il observait leur vol au coucher du soleil, il avait l'impression qu'ils évitaient plus encore qu'auparavant le lugubre clocher solitaire. Quand une troupe s'en approchait, il était persuadé qu'elle allait virer et s'éparpiller en une panique confuse, et il devinait les cris effarouchés qui ne pouvaient l'atteindre. On était en juin lorsque le journal de Blake mentionna sa victoire sur le cryptogramme. Le texte, il l'avait découvert, était écrit dans la sombre langue Aklo, utilisée par certains cultes de malfaisante antiquité, et connu de lui dans une certaine mesure grâce à des recherches qu'il avait effectuées autrefois. Ce journal est curieusement réticent sur ce que Blake a pu déchiffrer, mais il est manifeste qu'il a tout à la fois été impressionné et déconcerté par les résultats qu'il a obtenus. On y trouve des références à un être qui hante les ténèbres, qui peut être éveillé en contemplant le trapézoèdre brillant, et des conjectures insensées sur les gouffres chaotiques d'où il sort lorsqu'on l'appelle. Blake avance que l'être possède la connaissance absolue et qu'il exige de nombreux sacrifices. Certains éléments du journal de Blake indiquent aussi à quel point il redoute que cette créature, il semble considérer qu'elle a été invoquée, soit mise en liberté. Il ajoute toutefois que l'éclairage des rues constitue un rempart qui ne peut être franchi. Du trapézoèdre brillant, il parle souvent, car il le considère comme une fenêtre ouverte sur le temps et l'espace tout entier. Il en retrace l'histoire depuis l'époque où il a été façonné sur la sombre Yugot, bien avant que les grands anciens ne la portent sur la terre. Cet objet a été précieusement conservé et placé dans sa drôle de boîte par les crinoïdes de l'Antarctique, sauvés de leurs ruines par les hommes serpents de Valousie. Et enfin, c'est bien des années plus tard, en Lémurie, que les premiers êtres humains ont pu jeter les yeux sur lui. Il a traversé d'étranges terres, franchi de plus étranges mers, puis a sombré avec l'Atlantide avant qu'un pêcheur minoen ne le prenne dans ses filets et ne le vende à de noirs marchands de la nocturne Khem. Le Le pharaon Nefrenka a fait élever pour lui un temple doté d'une crypte sans ouverture, puis il a accompli ce qui lui a valu de voir son nom effacé de tous les monuments et de toutes les archives. C'est là, dans les ruines de ce funeste lieu culturel dont la destruction avait été ordonnée par des prêtres et par le nouveau pharaon, que le trapézoïdre a dormi jusqu'à ce qu'une bêche l'exhume une fois de plus pour la malédiction de l'humanité. Au début du mois de juillet, par une étonnante coïncidence, la presse vient compléter les notes prises par Blake, bien qu'elle le fît d'une manière si succincte et si fortuite que seul son journal intime a pu attirer l'attention sur cette contribution. Il s'avère que Federal Hill est une fois de plus proie à la terreur depuis qu'un étranger s'est introduit dans l'église redoutée. Les Italiens ont mentionné à voix basse l'existence de mouvements, de chocs, de grattements inhabituels perçus dans la sombre flèche aveugle, et ils ont demandé à leur prêtre de mettre en déroute cette entité qui vient hanter leurs rêves. « Il y a quelque chose, ont-ils dit, qui guette sans cesse derrière une porte, pour le moment où il fera assez sombre pour pouvoir s'aventurer au dehors. » La presse a rappelé les très anciennes superstitions locales, mais on n'a guère apporté de lumière sur ce qui a été à l'origine de la grande peur. Il est manifeste que les jeunes reporters d'aujourd'hui n'ont pas le goût de l'histoire ancienne. En notant toutes ces choses dans son journal, Blake exprime une singulière sorte de remords. Puis, il parle du devoir d'enterrer le trapézoèdre brillant et de bannir ce qu'il a invoqué en laissant pénétrer la lumière du jour dans ce clocher qui pointe hideusement vers le ciel. Toutefois, il insiste en même temps sur la dangereuse portée de l'attrait que cet objet exerce encore sur lui, et il reconnaît éprouver le désir morbide qui envahit jusqu'à ses rêves de visiter à nouveau la tour maudite et de chercher à percer du regard les secrets cosmiques de cette pierre rayonnante. C'est alors qu'un article de l'édition du matin du Journal du 17 juillet jette l'écrivain dans de véritables transports d'horreur. Ce n'était qu'une simple variation sur un thème que d'autres articles avaient déjà traité sur un mode à demi humoristique pour rendre compte de l'agitation de Federal Hill. Mais pour Blake, il s'agissait de quelque chose de réellement terrifiant. Au cours de la nuit, un orage avait mis hors de service le système d'éclairage de la ville pendant une bonne heure, et durant cet intervalle, les Italiens avaient failli devenir fous de terreur. Ceux qui demeuraient près de l'église tant redoutée avaient juré que la créature de la flèche avait profité de ce que les lampes n'étaient pas allumées dans les rues pour descendre dans la nef de l'église, et qu'en sautant et en se cognant à tout, elle leur avait donné une impression de viscosité répulsive. Pour finir, elle avait tout heurté en remontant dans la tour, d'où étaient parvenus des bruits de verre brisé. Elle pouvait se déplacer partout où l'obscurité régnait, mais la lumière la chassait toujours. Une fois le courant rétabli, il y avait eu une commotion bouleversante dans la tour, car la faible lumière qui parvenait à filtrer à travers les fenêtres était encore trop importante pour cette créature. Celle-ci s'était démenée pour se glisser juste à temps dans sa ténébreuse flèche, car une longue dose de lumière l'aurait renvoyée à l'abîme d'où cet étranger fou l'avait fait sortir en l'appelant. Au cours de l'heure d'obscurité, des foules en prière s'étaient rassemblées autour de l'église en portant des bougies, des lampes abritées tant bien que mal par des journaux pliés ou des parapluies. Une garde de lumière pour protéger la ville du cauchemar qui se tenait à l'affût dans le noir. Une fois, devaient déclarer ceux qui se trouvaient le plus près de l'église, la grande porte avait été secouée d'atroces façons. Ce n'était pas là, d'ailleurs, ce qui s'était produit de pire. Ce soir-là, dans le bulletin, Blake put lire ce qu'avaient découvert les reporters, s'arrachant enfin à leur torpeur car ils se rendaient compte de la singulière importance que représentait cette panique, du point de vue de l'information. Deux d'entre eux avaient défié les foules d'Italiens frénétiques à pénétrer en rampant par la fenêtre de la cave, après avoir en vain tenté d'ouvrir les portes. Il s'était rendu compte que la poussière du narthex et de la nef spectrale était balayée de façon surprenante, que des morceaux de coussins et de garnitures en satin des bancs qui se désagrégeaient avaient été curieusement éparpillés. Il régnait partout une odeur désagréable, et on voyait ici et là des taches ou des plaques roussies qui semblaient bien dues à une carbonisation. Ouvrant la porte qui menait à la tour et s'arrêtant un instant parce qu'ils avaient cru percevoir un grattement plus haut, ils avaient trouvé l'étroit escalier en spirale balayé, lui aussi, au point d'avoir été à peu près nettoyé. La tour elle-même se trouvait dans le même état, à demi balayée. Il disait avoir vu un pilier de terre heptagonal, des chaises gothiques renversées, de bizarres statues de plâtre peints, mais chose étrange, il ne mentionnait ni la boîte de métal, ni le vieux squelette mutilé. Ce qui troubla le plus Blake, outre les allusions à des taches, à des plaques roussies et à de mauvaises odeurs, ce fut le dernier détail, celui qui expliquait les bris de verre. Toutes les fenêtres à l'ancêtre de la tour avaient été brisées, à deux d'entre elles avaient été bouchées d'une manière grossière et rapide, avec des garnitures en satin des bancs et du crin des coussins entassés dans les espaces qui subsistaient entre les abat-sons extérieurs inclinés. D'autres fragments de satin et des paquets de crins étaient éparpillés depuis peu sur le sol balayé. C'était comme si quelqu'un avait été interrompu alors qu'il replongeait la tour dans l'obscurité qu'elle avait connue du temps où elle comportait des rideaux soigneusement tirés. Il y avait également des taches roussies et des plaques noircies sur l'échelle qui menait au haut du clocher privé des fenêtres. Mais quand un des reporters avait grimpé, ouvert la trappe qui glissait à l'horizontale et balayé du faible faisceau de sa torche l'espace noir et anormalement fétide, il n'avait trouvé que l'obscurité et un désordre hétérogène de fragments sans forme près de l'ouverture. Leur verdict, bien entendu, était qu'on se trouvait en présence de charlatanerie. On avait fait une farce aux habitants superstitieux de la colline, à moins que quelques fanatiques n'aient voulu étayer leurs craintes soi-disant pour leur bien. Peut-être, encore, que certains de ces habitants, plus jeunes et plus évolués, avaient monté une mystification assez compliquée pour tromper le monde extérieur. Il y eut une suite assez amusante à cette enquête. La police envoya un officier pour la vérifier. Trois hommes réussirent à se dérober l'un après l'autre à cette corvée. Le quatrième se rendit sur les lieux avec beaucoup de répugnance et en revint très vite, sans avoir rien à ajouter au compte rendu des reporters. À partir de ce point, le journal intime de Blake témoigne d'une montée constante d'horreurs insidieuses et d'appréhensions nerveuses. Il se reproche vivement de ne pas agir et spécule comme pris d'effroi sur les conséquences d'une autre coupure de courant. On a pu vérifier qu'en trois occasions, au cours d'orage, il avait téléphoné à la compagnie d'électricité et demandé sur un ton frénétique que soient prises absolument toutes les précautions pour qu'une panne soit évitée. De temps à autre, ses notes révèlent combien il était tourmenté à la pensée que les journalistes n'avaient trouvé ni la boîte de métal, ni la pierre, ni l'antique squelette aux curieuses mutilations. Il supposait que tous ces indices avaient été emportés. Où et par qui ou par quoi, il en était réduit aux conjectures. Mais ses pires craintes concernaient sa propre personne, et la sorte de relation impie dont il sentait l'existence entre son cerveau et cette horreur tapie dans la flèche lointaine. Cette monstrueuse créature de la nuit que son imprudence avait tirée des ultimes espaces noirs. Il paraissait se rendre compte des tiraillements constants auxquels sa volonté était soumise, et les personnes qui lui rendirent visite à cette époque devaient se souvenir de la manière dont il restait assis à son bureau, l'air absent, et dont il contemplait par la fenêtre ouest ce tertre lointain dominé par un clocher derrière les spirales de fumée qui montaient de la ville. Son journal insiste alors de façon monotone sur certains rêves terrifiants, puis sur le renforcement de ses correspondances impies durant son sommeil. Il est fait mention d'une nuit où il s'était réveillé pour se retrouver complètement vêtu hors de chez lui, en train de descendre la penche de College Hill en direction de l'ouest. Il insiste sans relâche sur le fait que la créature qui se trouve dans la flèche sait où le rejoindre. La semaine qui suivit le 30 juillet est surtout mémorable parce que Blake fut pris d'une dépression nerveuse partielle. Il ne s'habilla pas, commanda tous ses repas par téléphone. Les visiteurs remarquèrent la présence de cordes auprès de son lit et il leur déclara que des crises de somnambulisme l'avaient contraint à se lier les chevilles toute la nuit et à faire des nœuds capables de résister à ses efforts ou susceptibles de le réveiller, et s'il essayait de les défaire. Dans son journal, il raconte à la suite de quelle atroce expérience il est tombé dans cet abattement. Après s'être couché le soir du 30 juillet, il s'était brusquement retrouvé en train de tâtonner dans un espace où il faisait presque nuit. Tout ce qu'il pouvait distinguer, c'était de courtes et faibles raies horizontales d'une lumière bleuâtre, mais il sentait qu'il se dégageait là une odeur pestilentielle qui le suffoquait. En même temps, il percevait une suite de sons confus, étouffés, furtifs, au-dessus de sa tête. Partout où il mettait le pied, il trébuchait sur quelque chose et à chaque bruit qu'il faisait, une sorte d'écho paraissait lui répondre. Un vague remuement accompagné d'un prudent glissement du bois sur le bois. Une fois, ses mains rencontrèrent à tâtons un pilier que rien ne surmontait, puis, plus tard, il s'aperçut qu'il serrait les barreaux d'une échelle scellée dans un mur, qu'il cherchait à l'aveuglette au-dessus de sa tête, en direction d'un endroit où la puanteur se faisait plus intense, et d'où un souffle chaud, un souffle brûlant même, se dirigeait vers lui. Devant ses yeux, il voyait défiler une gamme kaléidoscopique d'images fantomales qui se dissolvaient toutes par intervalles pour faire place à la représentation d'un abîme de la nuit, vaste, insondé, où tourbillonnaient des soleils et des univers d'une obscurité plus dense encore. Il songeait aux légendes anciennes qui évoquaient le chaos ultime, au centre duquel se vautre Azathoth, seigneur de toutes choses, dieu aveugle et idiot, entouré de sa horde affalée de danseurs amorphes et sans esprit, bercé qu'il est par le son maigre et monocorde d'une démoniaque flûte, tenue par des griffes indicibles. Soudain, une brève détonation, claquant quelque part dans le monde extérieur, l'avait arraché à sa stupeur et lui avait permis de constater l'horreur indicible de sa position. Ce qui en était la cause, il ne le sut jamais. Peut-être était-ce quelque pièce tardive d'un des feux d'artifice que l'on entendait tout l'été sur Federal Hill, où les habitants honoraient leurs divers saints patrons, ou les saints de leur village natal d'Italie. Il poussa en tout cas un grand cri, sauta au bas de l'échelle comme un possédé, trébucha tel un aveugle sur le sol encombré de la chambre quasi dépourvue de lumière dans laquelle il évoluait. Il comprit aussitôt où il était et se jeta témérairement dans l'étroit escalier en spirale titubant et se cognant à chaque tournant. Comme dans un cauchemar, il détala à travers la vaste nef envahie par les toiles d'araignée dont les arcs fantomatiques se haussaient jusqu'à des royaumes d'ombre peuplés de regards malicieux, s'élança dans une course aveugle au travers d'un sous-sol jonché de débris, puis se hissa pour gagner l'extérieur où il allait retrouver l'air et les lumières des rues, se jeta dans une fuite éperdue le long de la pente d'une colline spectrale qui résonnait jusqu'au faîtage le bredouillement indistinct, traversa une ville sinistre, silencieuse, aux hautes tours sombres, puis en remontant l'autre flanc d'un précipice abrupt venu couper sa route vers l'est, il atteignit la porte ancienne de sa propre maison. En reprenant connaissance au matin, il avait découvert qu'il gisait tout habillé sur le plancher de son bureau. Il était couvert de poussière et de toiles d'araignée. En outre, chaque centimètre de son corps lui paraissait sensible et comme couvert de bleu. Lorsqu'il se vit dans un miroir, il découvrit que ses cheveux étaient fortement roussis. Puis il se rendit compte qu'une odeur étrange et désagréable paraissait imprégner de façon à peine perceptible le haut de ses vêtements. C'est alors qu'il sombra dans la neurasthénie. À partir de ce moment, il traîna, l'air épuisé, en robe de chambre dans son appartement, et ne fit guère plus que regarder par la fenêtre ouest. Il frissonnait lorsqu'il entendait l'orage menacer, et emplissait son journal de considérations déraisonnables. Le grand orage éclata juste avant minuit, le 8 août. La foudre frappa de façon répétée tous les quartiers de la ville et d'aucuns prétendirent avoir vu arriver deux extraordinaires boules de feu. La pluie fut torrentielle, tandis que le roulement permanent du tonnerre tenait éveillé des milliers de personnes. Blake était hagard, tant étaient grandes sa frayeur au sujet de l'éclairage de la ville, et il tenta de téléphoner à la compagnie vers 1h du matin, mais à ce moment-là, le service avait déjà été coupé pour un temps par mesure de sécurité. Blake nota tout dans son journal, à l'aide de grands hiéroglyphes, nerveux, souvent indéchiffrables, qui racontaient l'histoire de sa frénésie et de son désespoir croissant, ou de notes griffonnées dans le noir alors qu'il ne pouvait plus y voir. Il était contraint de laisser sa maison plongée dans l'obscurité, car il voulait pouvoir regarder par la fenêtre, et il semble qu'il a passé la plus grande partie de l'orage assis à son bureau, fouillant la pluie d'un regard anxieux, puis au-delà des kilomètres de toits luisants de la ville basse, cherchant la constellation de lumière lointaine qui marquait la position de Federal Hill. De temps à autre, il notait maladroitement quelque chose si bien que des phrases isolées telles que « Les lumières ne doivent pas s'éteindre, elle sait où je me trouve, il faut que je la détruise, elle m'appelle, mais elle n'a peut-être pas l'intention de me faire du mal cette fois » ont été trouvées jetées au hasard sur deux pages. C'est alors que toute la ville fut privée d'électricité. Ceci se produisit à 2h30 du matin, selon les registres de la centrale, mais le journal de Blake ne fournit pas d'indication de temps. On y trouve simplement « Lumières éteintes. Que Dieu me vienne en aide. » Sur Federal Hill, il y avait pourtant des observateurs tout aussi anxieux que lui, car de petits groupes d'hommes trempés par la pluie s'étaient mis à défiler sur la place et dans les ruelles autour de l'église, abritant sous leurs parapluies des cierges, des torches électriques, des lampes à pétrole, des crucifix et toutes sortes d'obscurs charmes communs en Italie du Sud. Ils bénirent chaque éclair, et firent de mystérieux signes de la main droite pour exprimer leurs craintes, jusqu'à ce qu'une nouvelle phase de l'orage vînt diminuer les éclairs, avant qu'ils ne disparaissent complètement. Le vent qui se levait souffla, la plupart des bougies, si bien que tout le voisinage s'assombrit à un point inquiétant. On alla réveiller le père Merluzzo, de l'église Spirito Santo, qui se hâta de gagner la lugubre place afin d'y prononcer si possible quelques paroles réconfortantes. Pourtant, nul ne put ignorer l'existence des bruits et l'agitation étrange qui régnait dans la tour aveuglée. À propos de ce qui se produisit à 2h35, nous possédons le témoignage du prêtre, un homme jeune, intelligent, ayant reçu une solide éducation. celui du policier William J. Monaham, du commissariat central, qui effectuait une ronde, un policier en qui on peut avoir toute confiance et qui s'était arrêté en ce point de son parcours pour observer la foule, celui enfin des 78 hommes rassemblés autour du glacis de l'église, la déposition surtout de ceux qui, sur la place, pouvaient voir la façade. Bien entendu, il ne se passa rien dont on aurait pu jurer que cela se situât hors de l'ordre naturel des choses. Les causes d'un tel événement peuvent être nombreuses. Nul ne saurait parler avec certitude des obscurs processus chimiques qui sont susceptibles de se développer dans un bâtiment aussi vaste, aussi ancien, mal aéré, depuis longtemps déserté et renfermant des éléments hétérogènes. Des vapeurs méphitiques, une combustion spontanée, une compression des gaz due à une décomposition prolongée, d'innombrables phénomènes auraient pu en être responsables. Et puis, bien entendu, on ne pouvait en aucun cas écarter l'hypothèse d'un acte de charlatanerie. L'événement fut en réalité très simple et dura moins de 3 minutes, en tout et pour tout. Le père Merluzzo, homme toujours précis, avait consulté sa montre de façon répétée. Cela a débuté par une nette amplification des sons lourds à l'intérieur de la tour noire. Il se produisait depuis quelque temps déjà de vagues exhalaisons d'odeurs indéfinissables, mais désagréables, en provenance de l'église. Celles-ci se précisèrent et devinrent nettement nauséabondes. Il y eut ensuite un bruit de bois éclaté et un objet grand et lourd vint s'écraser sur le parvis, devant la façade est. La tour était invisible à présent que les bougies ne voulaient plus brûler, mais comme l'objet approchait du sol, les gens reconnurent l'abat-son couvert de suie, de la fenêtre et de la tour. Aussitôt après, une puanteur absolument intolérable descendit des hauteurs invisibles, prenant les observateurs frissonnant à la gorge et leur soulevant le cœur. Puis elle plongea presque dans la prostration tous ceux qui étaient sur place. Au même moment, l'air trembla sous l'effet d'une vibration qui paraissait due à un claquement d'ailes. Le vent se mit brutalement à souffler de l'est et fut bientôt plus violent que toutes les bourrasques qui l'avaient précédé, enlevant les chapeaux ou les arrachant les parapluies ruisselants de la foule. On ne voyait rien de net dans cette nuit désormais privée de bougies, mais certains spectateurs qui regardaient en l'air crurent avoir vu se former un grand brouillard, d'un noir plus dense que le noir d'encre du ciel. Un brouillard évoquant un informe nuage de fumée qui aurait fui vers l'est à la vitesse d'un météore. Ce fut tout. Les observateurs étaient à demi engourdis par la frayeur, l'angoisse, l'inconfort, et ne savaient ni ce qu'ils devaient faire, ni s'il fallait faire quelque chose. Ignorant ce qui s'était produit, ils ne relâchèrent pas leur veille, et un moment plus tard, leurs prières s'élevèrent alors qu'un vif et très tardif éclair, suivi d'un craquement assourdissant, déchirait le ciel lourd de pluie. Une demi-heure plus tard, la pluie cessa et 15 minutes après, l'éclairage fut rétabli dans les rues, renvoyant dans leur foyer les témoins las et crottés, mais le cœur soulagé. Les journaux du lendemain n'accordèrent que peu de place à cet événement dans les comptes rendus qu'ils firent sur l'orage. Il semble que le grand éclair et l'explosion assourdissante ayant suivi ce qui s'était passé sur Federal Hill aient été encore plus formidables dans l'est de la ville, où l'on avait également remarqué qu'il s'accompagnait un moment d'une puanteur singulière. Ce phénomène avait été particulièrement marqué sur College Hill, où la foudre, en tombant, avait réveillé tous les habitants endormis et les avait poussés à échanger les spéculations les plus confuses. Seuls certains de ceux qui étaient restés debout virent l'anormal éclat de lumière qui se produisit près du sommet de la colline, ou remarquèrent l'inexplicable tourbillon d'air qui, en s'élevant, défeuilla les arbres et arracha les plantes des jardins. On convint que l'unique et soudain coup de foudre avait dû frapper quelque part dans le voisinage, bien que nulle trace n'en ait été encore découverte. Un jeune homme de la fraternité Tau Omega crut avoir vu en l'air une masse de fumée aussi grotesque que hideuse, au moment précis où il avait éclaté l'éclair préliminaire, mais son observation n'avait pas été confirmée. Les rares témoins étaient tous d'accord, cependant, sur l'arrivée du violent coup de vent venu de l'ouest et sur l'exhalaison brutale de l'intolérable puanteur qui avait précédé le coup de tonnerre tardif. Quant aux déclarations concernant l'odeur de brûlé perçue un moment après que la foudre soit tombée, elles sont toutes aussi unanimes. Ces points furent examinés avec beaucoup d'attention, étant donné la relation probable qu'ils avaient avec la mort de Robert Blake. Les étudiants de la maison Psi Delta, dont les fenêtres supérieures donnaient à l'arrière sur le bureau de Blake, avaient remarqué au matin du 9 ce visage blanc et flou derrière la fenêtre ouest, et s'étaient demandé ce qu'il pouvait y avoir d'anormal dans son expression. Quand ils virent que le même visage se trouvait dans la même position ce soir-là, ils s'inquiétèrent et surveillèrent l'appartement pour voir si les lumières s'y allumaient. Plus tard, ils allèrent sonner à la porte de l'appartement plongé dans l'obscurité, puis ils finirent par demander à un policier de forcer la porte. Le corps rigide était assis bien droit au bureau, près de la fenêtre, et quand ceux qui s'étaient introduits dans l'appartement virent les yeux vitreux, saillants, et les marques qu'une terreur absolue avait laissées sur ses traits déformés, ils se détournèrent, gagnés par un effroi qui les rendit malades. Peu après, quand le médecin légiste vint pour l'examiner, il conclut, en dépit du fait que la fenêtre n'était pas brisée, qu'un choc électrique ou une tension nerveuse due à une décharge électrique avait causé la mort. Il ne tint pas le moindre compte de l'expression hideuse, la considérant comme le résultat fort probable du choc qu'avait dû subir une personne dont l'imagination était si anormale et les émotions si disproportionnées. Il tira ses conclusions de l'examen des livres, tableaux et manuscrits trouvés dans l'appartement, ainsi que des éléments du journal intime griffonnés en aveugle qu'on avait découvert sur le bureau. Blake avait continué à jeter des notes frénétiques jusqu'à la toute dernière minute, et on avait retrouvé un crayon à la mine brisée serré dans sa main droite. Les éléments enregistrés pendant la panne étaient très décousus, et seule une partie en était lisible. Certains enquêteurs ont tiré de l'ensemble des conclusions qui différaient beaucoup des rapports officiels, uniquement fondés sur les faits, mais de telles spéculations ont peu de chances de convaincre des personnes à l'esprit conservateur. Le cas de Blake, tel qu'il était présenté par ses théoriciens imaginatifs, a plutôt été desservi par l'intervention du docteur Dexter, homme superstitieux qui alla jeter la curieuse boîte et la pierre aux angles singuliers, un objet probablement luminescent lorsqu'il était observé dans la flèche noire et sans ouverture où il avait été trouvé, dans le chenal le plus profond de la baie de Narragansett. Une imagination excessive et des troubles neurasthéniques renforcés, chez Blake, par la connaissance d'un culte du mal, observé dans le passé et dont il avait découvert de saisissants vestiges, telle était l'interprétation dominante qui fut dominée à ses ultimes notes frénétiques. Voici quelles étaient ces notes, du moins, ce que l'on a pu en tirer. Les lumières sont encore éteintes. Cela doit faire 5 minutes maintenant. Tout dépend des éclairs. Que Yadid fasse qu'il se poursuive. Il semble qu'une influence tente de passer au travers. Pluie, tonnerre et vent assourdis. La chose est en train de s'emparer de mon esprit. Trouble de mémoire. Je vois des choses que je n'ai jamais perçues auparavant. D'autres mondes et d'autres galaxies. Noirs. La foudre paraît noire et l'obscurité paraît être lumière. Cela ne peut être ni la véritable colline ni la véritable église que j'aperçois dans ce noir d'encre. Doit être une impression rétinienne laissée par les éclairs. Le ciel fasse que ces Italiens soient dehors avec leurs cierges si jamais la foudre cesse de tomber. De quoi ai-je donc peur? Serait-ce pas un avatar de Nyarlathotep qui dans l'antique et ténébreuse Kem est allé jusqu'à prendre figure humaine? Je me souviens de Yugot, puis de Shagai, plus distante encore. De l'ultime vide des planètes noires, enfin. Le long vol attire d'elle à travers le vide. Elle ne peut franchir l'univers de lumière, recréé par les pensées emprisonnées dans le trapézoèdre brillant. Les invoquer à travers les horribles abîmes du rayonnement. Je m'appelle Blake. Robert Harrison Blake. Du 620 East Knapp Street, à Milwaukee dans le Wisconsin. Je suis sur cette planète. Azathoth, aie pitié de moi. Il n'y a plus d'éclair. Je peux tout voir à l'aide d'un sens monstrueux qui n'est pas la vue. La lumière est noire et le noir est lumière. Ces gens sur la colline. Les cierges et les charmes. Les prêtres. Sens des distances disparu. Loin et près, près et loin. Pas de lumière, pas de verre. Vois cette flèche, cette tour, la fenêtre, peut entendre. Roderick Usher, suis fou et deviens fou. La créature s'agite et cherche son chemin dans la tour. Je suis elle, et elle est moi. Je veux sortir, dois sortir et unifier des forces. Elle sait où je me trouve. Je suis Robert Blake, mais je vois la tour dans le noir. Il y règne une odeur monstrueuse. Mes sens sont transfigurés. Planche de cette fenêtre de la tour craque et cède. Je la vois. Elle vient ici. Il y a un vent d'enfer. Une voile titanesque. Des ailes noires. Yog-Sothoth, sauve-moi. L'œil brûlant aux trois lobes.